impressionnée, mais ça va aller. Pourtant, je connais ma vie, hein. Donc, je suis née dans une ferme perdue dans le Gers. N'est-ce pas, Lydie ? Le Gers, c'est une belle région. Dans une... Pardon ? Ben oui, exactement. On y mange du confit de canard, du foie gras. On y boit de l'armagnac. Ça, c'est bien. Et donc, dans une famille authentiquement italienne, au cours de l'année qui a marqué le milieu du siècle dernier. Ça fait longtemps, hein ? Donc, enfin non, c'est même pas là qu'il faut que j'envoie. Comment ça marche, le truc ? Ah, j'ai pas allumé, pardon. Non, mais moi et la technique, on n'est pas copines. Voilà, voyez, le Gers, notre beau pays, Lydie. Alors, comme dans beaucoup de familles italiennes, mes parents attendaient l'héritier qui assurerait la continuité du patronyme paternel. Mais voilà, lorsque j'ai fait mon apparition, chacune a pu découvrir que, aux déceptions, j'étais une fille. Il faut dire que juste peu de temps avant moi étaient nés chez mon oncle et ma tante, les frères et sœurs de mon papa, deux garçons. Donc ils s'étaient dit jamais 203, ça sera un garçon. Mais voilà, l'héritier était une héritière. Bon, on va s'en remettre. Mais comment va-t-on appeler cette princesse inattendue ? En fait, seuls des noms de petits garçons avaient été sélectionnés. Alors, vous savez, comme Joséphine Ange Gardien, elle fait comme ça, elle dit « retourne à la bonne vieille méthode ». Mes parents, eux, ils sont retournés à l'almanach des postes, avec tous ses saints. Pour ceux qui ne connaissent pas l'almanach des postes, c'est l'ancêtre du calendrier des PTT, que le facteur distribue. Et voilà, donc on est allé voir là-dedans, et on a regardé, je suis née le 6 octobre. Manque de peau, le 6 octobre, c'est la Saint-Bruno. Ça ne marche pas. Donc, pardon. En remontant le long du calendrier, mes parents ont découvert Sainte-Thérèse, fêtée le 1er octobre. Ça pouvait aller. Mais malheureusement, il y avait encore un souci. C'est que le dernier frère de papa, le plus jeune, avait convolé en juste noce avec une dame qui s'appelait Thérèse. Donc, c'était pris. Et bon, ma maman a alors pensé qu'on pouvait y ajouter Marie, ça ne pourrait pas me faire de mal. J'ai donc démarré dans la vie avec ce prénom de secours. Bon, je ne me rappelle pas, mais on me l'a tellement dit, tellement raconté, que plus grande, je ne supportais plus qu'on m'appelle comme ça. Et je ne le supporte toujours pas, d'ailleurs. Donc, mes parents, une fois remis de leur surprise, ben voilà, ils ont fait avec moi, hein, et ils ont été des chouettes parents. J'ai pas vraiment de souvenirs, je pense que les premières années, on n'a pas vraiment de souvenirs, mais j'ai vraiment une impression de bonheur, de bien, de voilà. On a passé des bons moments, hein, ils ont été des parents aimants. Ils m'ont éduqué comme ça leur semblait bien. Mon papa, c'était un homme plein de sourires et plein d'humour salvateur. Heureusement, parce que ma maman, elle était stricte. Hein? Souvent, c'est l'inverse. Ben, chez nous, c'était comme ça. Hein? Elle était stricte et elle voulait faire de moi quelqu'un de bien. Alors, je vous ferai grâce de la photo incontournable des gens de ma génération. Huguette, je pense que tu as la même. Celle où on est à plat ventre sur un coussin en tenue d'Ève ou d'Adam. Enfin, nous, c'était Ève. Avec, pour ma part, j'avais un énorme kiki dans les cheveux. Donc celle-là, je ne vous la montrerai pas. Mais pour vous donner une idée de la bouille de petite fille que j'avais, vous me voici avec mes parents. J'avais presque 2 ans. Voilà, c'est beau, hein ? Alors, les 4 premières années de ma vie m'ont laissé justement ce sentiment de bonheur. Et pendant ma 4e année, la nouvelle est arrivée. On allait avoir un nouveau bébé. Et sûr, cette fois, ça serait un garçon. Et effectivement, le petit nez qui a fait coucou quelques mois plus tard appartenait bien à mon petit frère. Alors il a reçu le prénom bien gardé au chaud, là, depuis 4 ans, et on l'appelait Francis. Et si la maison du bonheur existe vraiment, franchement, elle doit ressembler à ce que nous avons vécu les 18 mois suivants. Des parents rayonnants et fiers de leur petite famille. Alors cette photo ne m'avantage pas beaucoup, mais je voulais vous la montrer, vous allez comprendre pourquoi. Donc il va avoir un an, peut-être 14 mois, et moi j'avais 4 ans et quelques. Mes parents étaient très fiers de nous, nous étions heureux, j'ai des souvenirs de promenades, j'ai vraiment des bons souvenirs. Et pourtant, personne n'a rien vu venir. Mon petit frère est tombé malade. On était dans un village où il y avait un vieux médecin. Et le vieux médecin n'a rien vu, il a diagnostiqué une angine, puis un problème aux oreilles. Mais aucun traitement n'était efficace. Finalement, tellement inquiet de voir que ça ne s'arrangeait pas, mes parents l'ont amené chez le guérisseur du village voisin. Ça se faisait beaucoup dans les campagnes à ce moment-là. Et quand ils sont rentrés dans la salle d'attente, ce monsieur est sorti et il leur a dit « Filez à l'hôpital, c'est une méningite ». Il n'a même pas regardé le bébé. Alors bien sûr, ils sont partis à l'hôpital, mais voilà, malgré les soins prodigués, la vie a perdu. Et le rayon de soleil de la maison s'était éteint. Pardon. Et les souvenirs que je garde de ces jours se résument à des vêtements noirs, des cris, des larmes. Et je me souviens de cette idée qui me hantait. Ils n'ont plus que toi maintenant. Tu dois leur redonner le sourire, tu dois leur redonner le bonheur. J'ai essayé. Mais ils ne me voyaient pas. Ils ne m'entendaient pas. Je ne comptais plus pour eux. Voilà la réalité qui s'est imposée à mon esprit. Bien sûr, quand je suis devenue adulte et que je suis devenue maman, j'ai compris ce que pouvait représenter la perte d'un enfant. Mais à ce moment-là, voilà, j'ai compris que pour être important, il fallait être mort. J'avais 5 ans. Alors j'ai décidé de mourir. Je me suis dit comme ça, ben voilà, ils parleront de moi. On ne parlait que de Francis, le petit. Ma maman disait toujours le petit. Et donc, j'ai pris la décision de mourir aussi. Je me suis cachée sous la grande table de la cuisine, bien à l'abri derrière l'épais tapis. Maman avait une espèce de gros tapis. D'habitude, on mettait ça par terre. Mais elle m'a vu ça sur la table de la cuisine, comme ça, dessous, ça lui faisait du rangement. Et je me suis cachée là-dessous, et j'ai décidé que je ne sortirais plus jamais. Bien sûr, à l'heure du repas suivant, elle m'a appelée, elle m'a cherchée, elle m'a trouvée, elle m'a tirée de là, et voilà. Mais mon cœur est resté sous la table. D'accord, bon, je ne savais pas comment faire pour mourir, mais j'allais devenir invisible. J'allais me cacher aussi souvent que possible, j'allais rester muette. Après tout, je n'avais pas de valeur, alors de toute façon, ça ne dérangerait personne. Hein. Et je me suis construite comme cela. Donc, ouais. Et suite à ce cataclysme, mes parents ont été invités dans une église. Ils ont découvert que Dieu pouvait consoler les cœurs les plus brisés. J'ai suivi. J'avais pas 6 ans, donc j'ai suivi. Mais ce sentiment de rejet ne me quittait pas. Maman était très autoritaire et elle cadrait ma vie. Elle ne me laissait pas beaucoup d'espace pour être moi. Alors je suis devenue ce qu'elle voulait que je sois, toujours invisible et discrète à l'extrême. Et ce prénom qui me collait à la peau, que je n'aimais pas, vraiment, ça c'est... Heureusement, vers mes 10 ans, un de mes petits cousins n'arrivait pas à prononcer mon prénom. Il m'appelait ma Thérèse. Puis c'est devenu Mathé, et puis tout le monde a adopté cette formule. Et voilà pourquoi j'ai un prénom que vous ne trouvez pas dans l'almanach des PTT. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle tout le monde m'appelle Mathé. Vous savez, ma maman, par exemple, elle me disait ceci. Quand tu es en compagnie avec les autres, ne parle pas. Au moins, si tu te tais, personne ne verra si tu es bête. Alors voilà, c'est épanouissant. Mais elle partait d'un bon sentiment. Elle voulait vraiment que je devienne quelqu'un de bien. Bon, elle n'avait pas une démarche pédagogique tellement... Mais bon, voilà. C'était... Heureusement qu'il y avait papa qui avait plus de sourire. Et après leur conversion, mon papa était cordonnier. Et vous savez, il avait une grosse machine là qui tourne avec des genres de papier de verre qui tournent pour les semelles et tout ça. Et il était là et il travaillait dans un petit recoin. On avait une toute petite maison. Et il chantait. Je me souviens qu'il chantait « Oh, prends mon âme, prends la Seigneur ». Et c'était tellement beau que je me cachais dans l'escalier pour l'écouter. Heureusement qu'il était là parce que... Voilà. lendemain qu'il était là. Et donc, les adultes me faisaient peur. Je n'étais à l'aise qu'avec les enfants et je recherchais toujours leur présence, leur compagnie. Les enfants plus petits que moi, pas forcément les filles de mon âge, parce que j'étais tellement mal dans ma peau qu'elles le sentaient, puis elles me laissaient de côté, et ça ajoutait au mal-être, et puis voilà. Donc j'étais toujours avec des petits, et j'ai décidé que je serais maîtresse. Voilà, ça c'était la solution. J'ai commencé à faire l'école aux chaussures qui étaient exposées dans le magasin de mes parents. Ça m'a valu quelques fessées parce que moi, je rangeais les petits avec les petits, les grands avec les grands. C'était pas comme ça. Bon, voilà. Mais je voulais être maîtresse. Et j'aimais tellement les enfants que, je vais vous dire un secret que vous ne connaissez peut-être pas, j'ai même donné le biberon à Lydie. Et je lui ai même changé la couche. Nos mamans, nos parents étaient dans la même église. Et voilà, et moi j'étais tous les bébés qu'on me prêtait, je me régalais avec. Voilà, donc maintenant vous savez tout, Lydie. Tu n'auras pas besoin de le dire quand tu rendras ton témoignage la prochaine fois. Bon, pendant l'adolescence, tout ça ne s'est pas rangé. Et c'est vraiment très fragilisé que je suis arrivée aux portes de la vie d'adulte. Bien sûr, en suivant mes parents à l'église, j'ai découvert que Dieu pouvait être mon ami. Et plus encore, je lui ai ouvert mon cœur et je me suis sentie aimée, mais par lui. Parce que les autres, j'avais l'impression que personne ne m'aimait. Et j'ai gardé cette devise. Même si, quelque part, j'avais trouvé une sérénité interne, j'ai gardé cette devise. Je serai toujours invisible, muette. Et j'essaierai d'être embêtante le moins possible, de toujours me tenir à l'écart. Quand j'avais 15 ans, je suis allée en colonie de vacances, à Panassac, que certains connaissent. Enfin, je suis allée plusieurs années, mais quand j'avais 15 ans, il y a tout un groupe qui est venu de Rouen, et dans ce groupe, il y avait un jeune qui avait mon âge, et qui jouait de la trompette. J'ai été séduite par la trompette, pas par le trompettiste. C'était pas celui-là, hein. Alors, le trompettiste, je trouvais qu'il avait un caractère de cochon. Il s'est avéré plus tard que c'était le meilleur ami d'Alain. Mais voilà. Et donc, mais la trompette m'a séduite. Alors, côté cœur, je rêvais d'un prince charmant qui, en plus, jouerait de la trompette et serait maître d'école. Puisque moi, je serais maîtresse d'école. Voilà, c'était ça. Mais bon, je savais bien que ça n'arriverait jamais parce que le bonheur, c'était pas pour moi. Alors moi, je n'ai pas choisi, j'ai pris les deux. Tiens, regarde si tu es beau. Donc, avec mon idée de devenir maîtresse d'école, en fait, mes parents rêvaient que je prenne la suite du commerce. Mais vendre des chaussures, ça ne m'allait pas, parce que c'était ce contact avec les gens. Puis bon, ça ne m'allait pas vendre des chaussures, je voulais être maîtresse d'école. Donc voilà, j'ai envoyé des lettres à 14 académies et j'ai été retenue par une académie. On m'a demandé de venir, c'était la région parisienne. Ça a été pour moi une épreuve terrible parce que je venais d'un petit village où il y avait 3000 âmes avec les vaches et les cochons. Donc voilà, tout le monde se connaissait et tout. Je suis arrivée dans cette agglomération où personne ne connaissait personne, personne ne saluait personne. Bon, c'était bien, hein, pour être invisible, machin, c'était super. Mais je me sentais quand même un peu perdue. Et par contre, le fait de commencer à travailler avec les enfants, découvrir la vie d'enseignante, de maîtresse, ça a été un baume pour moi. Je me sentais enfin à ma place, je me sentais utile. Et j'étais comme un poisson dans l'eau. Je passais ma vie dans ma classe. J'avais une petite chambre de 3 mètres sur 3. Mais voilà, à 7 heures le matin, j'étais dans ma classe et j'y restais parfois jusqu'à 20 heures le soir. Et voilà, je passais ma vie dans ma classe. C'était vraiment génial pour moi, tant qu'aucun adulte ne s'approchait de la classe. Oui, voilà. Donc, les visites des conseillers pédagogiques et des inspecteurs ont parfois été vécues de manière très imprévisible. Alors, vous voulez un petit clin d'œil rigolo ? Hein, tout à l'heure, j'ai failli vous faire pleurer. Maintenant, je voulais vous faire rire. Alors, voilà. Je vais vous raconter l'histoire de ma première inspection. Donc, je travaillais dans une école pilote. On avait l'inspection départementale dans nos murs, et les jours où il pleuvait, où il faisait mauvais, où ils étaient fatigués, les inspecteurs, ils partaient pas, prenaient pas leur voiture. En général, ils jetaient leur dévolu sur quelqu'un de chez nous. Bon, on était une école de 18 classes, donc il y avait du monde quand même. Et un matin, voilà que par les vitres, vous savez, en haut des murs, des murs intérieurs de la classe, il y avait des vitres pour éclairer le couloir. J'ai vu une tête chauve qui montait et qui descendait au rythme des pas, comme ça. J'ai guetté pour voir s'il s'arrêtait à une porte, la porte de mes collègues, mais il ne s'arrêtait pas. J'ai dit, ça y est, cette fois-ci, c'est pour moi. Sauf qu'il peut. Il fallait absolument que je sorte, je ne pouvais pas rester dans la même pièce que ce monsieur. Oh, pas parce que ma classe n'était pas prête. Mes cahiers étaient corrigés, bien rangés, mes préparations étaient faites, mon cahier journal, tout était prêt, tout était. Mais je ne pouvais pas, ce n'était pas possible. Alors bon, il avait déjà la main sur la poignée de la porte, donc je ne pouvais plus sortir par la porte. Il y avait une porte de communication, mais la maîtresse qui était à côté, c'était... J'ose pas vous dire comment le directeur l'appelait, mais enfin voilà. C'était pas quelqu'un de compréhensif et de... Il n'avait pas le sens de l'humour. Donc j'ai dit, c'est même pas la peine que tu ailles vers là-bas. Donc la seule porte qui me restait, c'était la porte du placard. Donc je l'ai ouverte et j'ai essayé de rentrer dans le placard. Évidemment, il y avait des étagères avec un tas de matériel. Donc j'ai juste tiré les portes comme ça derrière moi. Et puis, le fait de ne pas voir la classe, j'avais l'impression d'être devenue invisible. Et puis, mes 36 élèves attendaient, sans trop savoir, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et puis, tout d'un coup, on a entendu frapper à la porte. Toc, toc, toc. Évidemment, je n'ai pas répondu. Non. Voilà. À nouveau, toc, toc, toc. La porte s'est entrouverte, la tête du monsieur est apparue. Bon, je ne l'ai pas vue, hein. Mais les enfants m'ont dit après. Et il a dit, votre maîtresse n'est pas là? Et 36 voix qui a répondu, si, dans le placard. Alors là, c'est une scène digne d'un film comique. Hein. Il a fait contourner le bureau, et il est venu... Moi, dans le placard, lui, dehors du placard, nous avons commencé à discuter. Il m'a dit, mademoiselle, il vous faut sortir. Et j'ai dit, non, je ne sortirai pas. Mais comment voulez-vous que je puisse parler avec vous si vous ne sortez pas? Non, je ne sortirai pas. Bon, alors, au bout de quelques minutes, il m'a dit, bon, je m'en vais, mais je reviendrai. Donc, j'ai entendu ses pas recontourner le bureau. Il est approché de la porte s'est ouverte. Et il est sorti. Mais j'avais tellement peur d'une feinte. Vous savez qu'il est fait semblant. Que j'ai demandé aux enfants depuis mon placard. Il est parti, le monsieur? Les enfants m'ont répondu, oui, oui, il est parti. Donc je suis sortie. Et puis on a sorti les cahiers rouges, les cahiers du jour. Et on a commencé à travailler. Ouais. Donc tout ça, voilà, c'était le petit clin d'œil. Il y en aura d'autres. Et voilà. Bon, c'était reculé pour mieux sauter, parce qu'après, j'en ai eu des inspections. Mais celle-là, c'était vraiment le pompon. Hein. Tiens, Alain, tu peux me passer mon mouchoir qui est à côté de toi, s'il te plaît? Merci. Ça va. À l'église où j'étais, donc à Fontenay-sous-Bois, l'église qu'on a quittée pour venir ici, nous avions un couple pastoral et il a été sollicité pour aller prendre soin d'une église qui avait des problèmes, il y a eu des soucis. Donc il a fallu chercher un pasteur pour notre église. Et moi je m'étais attachée à ce couple, j'ai dit tu vois une fois de plus, tu t'es attachée à des gens et maintenant ils s'en vont. Donc je dis les autres, je ne les regarderai même pas. Voilà donc transaction, truc machin. On a trouvé un couple qui s'appelait Monsieur et Madame Rendel. Hein? Monsieur Lucien Rendel et son épouse Émilie, ils avaient 4 enfants, une qui était mariée à Versailles et 3 qui vivaient avec eux, enfin, vivaient pas avec eux. Il y en avait un qui était instituteur à Rouen, un autre qui faisait ses études à Rouen et leur fille était avec eux. Et en septembre, les voilà qui débarquent, mais je dis, je ne les regarderai même pas. Parce que je veux pas m'attacher, après ils s'en vont et je pleure et tout ça. Voilà. Et puis, finalement, ils avaient avec eux un jeune homme, Et quand je croisais les yeux de ce jeune homme, vous savez, mon estomac se remplissait de papillons. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mesdames, peut-être vous aussi, messieurs. Hein, ça faisait tout drôle, là. Et puis, je n'osais pas le regarder, mais chaque fois que je le regardais, qu'il me regardait, c'était... Et donc, voilà. Puis, bon, on avait souvent l'occasion de se regarder parce que on était musiciens tous les deux. Enfin, lui était musicien. Moi, je n'étais pas musicienne, mais je jouais d'un instrument, mais je n'étais pas une vraie musicienne. Voilà, donc on avait l'occasion souvent d'être à côté l'un de l'autre. Et voilà, et puis on était enseignants tous les deux, donc on a décidé de mettre en place une correspondance scolaire qui a dégénéré, mais bon. Et puis voilà qu'il avait décidé de rentrer, je crois, une fois tous les trois week-ends, puis de rester à Rouen les autres. Et je ne sais pas pourquoi il rentrait tous les week-ends. Et une fois qu'il est rentré, sa voiture l'a lâché. Et donc, il est tombé en panne et il ne pouvait pas repartir avec sa voiture. Et moi, spontanément, mais j'ai dit, mais je te prête la mienne. Il me dit, ah bon ? Je dis, oui, il n'y a pas de souci, j'irai travailler à pied, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Nous avons résolu ce problème de voiture. Il est venu avec sa maman me raccompagner chez moi. Il a pris la voiture et tout et tout. Et c'était à fin novembre, le moment où on achetait la vignette. Du temps où il y avait la vignette. Mes collègues m'ont dit, tu as acheté ta vignette ? Ah, j'ai dit non. Et ils m'ont dit, mais il faut que tu l'achètes. J'ai dit, mais j'ai prêté ma voiture à un ami. Il me dit, mais téléphone-lui. Il me dit, j'ai même pas son téléphone. Il me dit, tu prêtes ta voiture à quelqu'un dont tu n'as même pas le téléphone ? Ni l'adresse. J'ai dit, non. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Il m'a ramené la voiture à la fin de la semaine avec la vignette. Et 8 jours plus tard, il m'a demandé ma main. Et vous savez quoi ? Eh bien, il jouait de la trompette et il était maître d'école. Hein ? Alors, tout est allé très vite. Hein ? On s'est connus, on s'est rencontrés en septembre, on s'est fiancés en décembre, on s'est mariés en juillet. Je crois que vous irez encore plus vite que nous, non ? Non, pas. Donc, on reste les number one. Et vous savez ce qu'il a fait, cet homme qui a l'air si respectable ? Le soir de notre mariage, vous savez ce qu'il a fait ? Vous savez pas ? Je vous le dis ? Donc, on s'est mariés en 1976. Alors, ceux qui étaient nés à ce moment-là se rappellent peut-être qu'il faisait extrêmement chaud. C'était un été caniculaire. Et à la sortie de la cérémonie à l'église, nos parents avaient prévu des boissons, des rafraîchissements. Ils avaient mis ça dans des grandes poubelles, mais vraiment des grandes poubelles, et à pleine de glace, des canettes, des bouteilles, et tout ça. Voilà, donc devant l'église, on avait mis une table et tout ça. C'était super, c'était bien. Puis au bout d'un moment, nous, on est partis avec les invités pour le repas et on a demandé aux jeunes de s'occuper de ramasser tous les restes et de rapporter tout cela dans l'appartement qu'occupait ma sœur, pas très loin de là. Et voilà, et nous, on est partis, on a fait notre repas, notre fête et tout ça. Et puis le soir, nous sommes rentrés. Et donc nous devions loger dans ce fameux appartement de ma sœur. Et donc nous sommes arrivés, évidemment il faisait nuit. Et puis Alain, bon prince, m'a dit, bon je n'étais pas comme maintenant, hein. Vous allez voir tout à l'heure sur la photo, j'étais mince et svelte à l'époque. Il m'a dit, je vais te faire passer le seuil. Il m'a pris dans ses bras, puis il a poussé la porte avec le pied, il a trébuché sur quelque chose, surpris, il a ouvert les bras, il m'a lâché. Et je suis tombée droit dans une poubelle pleine d'eau. Parce que la glace avait fondu, évidemment. Alors ça fait... Le temps que ça imprègne tous les tissus, la robe, la sous-robe, la sur-robe, la crinoline, le truc, le machin. Alors j'étais dans la poubelle, c'est une immense poubelle. J'avais les bras d'un côté et les genoux de l'autre, enfin les jambes. Alors pour me tirer de là, ça a été très long parce que avec le poids de l'eau dans les tissus, voilà. Puis en plus, on riait tellement, voilà. Mais je vous rassure, ça n'a pas mis de froid entre nous. Hein. C'était il y a 42 ans. Alors, ce n'est pas la poubelle en photo, on ne l'a pas prise. Hein. Voilà, c'était nous. On était bio, hein. Et voilà, et on a démarré notre vie à deux. Et vous savez, ça n'a pas toujours été des chemins de sable fin. Hein. Nous sommes portés l'un l'autre. Alain a toujours été là pour moi, j'ai toujours essayé d'être là pour lui. Et un an après notre mariage, une tornade est venue dévaster notre bonheur par le décès accidentel de notre, enfin, du jeune frère d'Alain qui avait 19 ans. Un accident de circulation alors qu'il encadrait des enfants dans une colonie chrétienne. Il a été écrasé par une pelleteuse. Je ne sais pas si vous voyez les poquelins, les gros trucs poquelins là. Le conducteur avait bu. Et voilà, il l'a écrasé carrément. Et franchement, ça a été... Je ne sais pas s'il y a un mot qui peut expliquer ça. Alain et lui étaient très proches. Et j'ai cru qu'il ne s'en relèverait pas. Quoi. C'était terrible. Ça a été vraiment une épreuve terrible, terrible. Mais bon, voilà. Nous avons pu expérimenter la profondeur de l'amour de Dieu. Nous étions alors enseignants à l'éducation nationale, tous les deux. Nous voulions un enfant. Rapidement, c'est venu ce désir d'enfant. Et puis, malheureusement, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. J'arrêtais pas de faire des mini fausses couches. Et donc, voilà. Et les médecins, j'ai été suivie, traitée, des examens et tout ce que vous voudrez bien. Et puis, finalement, on nous a dit, écoutez, on ne comprend pas. Je ne sais pas si ça marchera un jour. Et voilà. Bon, donc... On pensait à l'adoption et puis j'avais vraiment maintenant décidé de ne plus m'imaginer, parce que combien de fois je m'étais imaginée que j'étais enceinte, que j'attendais un bébé, puis voilà, ça tombait à l'eau et c'était tellement dur. J'avais décidé de ne même plus faire attention aux symptômes qui auraient pu m'alerter sur une éventuelle grossesse. Et voilà, et on était en vacances, des vacances d'été, dans le sud de la France. Et puis là, j'ai pris, je ne sais pas si ça se fait encore, mais on prenait le rappel du vaccin d'été polio sur un sucre. Donc j'ai pris ce vaccin. Et puis voilà, et ça m'a rendu malade. J'ai été malade, mais vraiment, c'était bizarre. J'avais déjà pris un autre rappel comme ça, mais là, ça m'a secoué. Et bon, voilà. Puis le temps a passé et. Quand même, ma sœur me dit, tu sais, tu devrais faire un test de grossesse, parce que ça fait quand même belle lurette que... J'ai dit, tu crois ? Elle me dit, oui, qu'est-ce que ça nous coûte rien. Donc, voilà, on fait un test de grossesse. Et moi, je n'osais pas aller voir si c'était... Je voulais pas aller voir le résultat. Elle est allée voir, et elle me dit, c'est positif. Voilà, mais sur le papier du vaccin, il y avait marqué, ne pas prendre pendant les 3 premiers mois de la grossesse. C'est écrit en lettres rouges. Et... Franchement, ce bonheur de savoir que nous allions enfin avoir un enfant, ça a été entaché par ça. Et donc, bon, voilà, on a commencé le suivi et le gynéco. On arrivait c'est la visite du deuxième mois, je crois. Et je lui expliquais ça. Il me dit, il faut avorter. Parce que votre enfant, avec ce produit-là, il peut naître sans jambes ou sans bras. Ou, on ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait pas. Donc, voilà, il faut avorter. Et non, on a dit non, c'est pas possible. Et donc, on a demandé un délai. Dans ce cabinet de gynécologie, il y avait 2 médecins. Donc, voilà, on a demandé un délai et on y retournait 15 jours après, parce qu'après, on passait le délai légal. Donc, on y retournait 15 jours après et on avait pris notre décision. Que vraiment, cet enfant, on croyait que c'est Dieu qui nous l'avait donné. Donc, on le garderait, quoi qu'il en soit. C'était pas le même médecin, c'était pourtant marqué sur le dossier, il nous en a jamais reparlé. Et c'est comme ça qu'on a eu Johan, notre fils. Alors, à l'échographie du 8e mois, je ne sais pas quel était ce radiologue qui a pris l'échographie, il était paniqué, il appelait notre radiologue, un collègue, un truc, un machin. Puis après il me dit, écoutez, c'est rien de grave, mais votre enfant il a une tête énorme pour un tout petit corps, mais c'est rien de grave, hein. Et là, toutes ces pensées sont revenues, ce médicament et tout ça et tout ça. Et bon, les 15 derniers jours, ça a été dur moralement. Et même le temps où, enfin, quand le travail a commencé, et puis que jusqu'à ce qu'il arrive, ben, ça tourne dans une tête de maman, hein, et même dans une tête de papa. Et puis quand il est né, la puéricultrice qui l'a pris en charge, elle nous a dit, ben, dites donc, il fera un mannequin votre fils. Il a pile les mensurations standards. Hein. Vous savez, je ne sais pas combien c'est, comme on dit chez les dames, 90, 48, 90. Voilà, chez les bébés aussi, il y a les mensurations standards. Et donc, il avait les bonnes mensurations. Et il était tout à fait parfait et c'était un amour. Et donc, après, bon, on voulait un deuxième enfant. Et donc, j'ai recommencé à faire des fausses couches. Et puis, finalement, 7 ans après, ben, ça y est, ça, c'est, un bébé s'est annoncé. Nous avons traversé à l'église à ce moment-là des moments terribles. Hein. Des moments, vraiment une tempête, pas possible. Et une personne m'a dit, mais tu n'as pas peur de mettre au monde un monstre avec tout le mal que vous faites à l'œuvre de Dieu? C'est que j'étais enceinte de 3 mois. Pendant 6 mois, ça a résonné dans ma tête. Et pendant 6 mois, on s'est battu avec ça. Et pourtant, eh bien, notre fille est née. Et voilà, nous avons un prince et une princesse. Les voilà petits et les voilà 18 ans plus tard, lors du mariage de notre fils. Tout à fait normaux, avec les yeux bien dans les trous et tout ce qu'il faut. Et voilà, donc on bénit Dieu vraiment pour ça. Et moi, j'étais vraiment heureuse, mais j'étais toujours accrochée à mon idée, invisible, muette, discrète, cachée. Alors, on a travaillé dans l'éducation nationale pendant pas mal d'années. Et puis, nous avons été sollicités pour prendre l'église que quittait mon beau-père pour partir en retraite. Et donc, voilà, nous avons pris la responsabilité de l'église de Fontenay, que nous avons accompagné pendant presque 30 ans. Alors, ça n'a pas toujours été une croisière tranquille. Hein. Il y a eu des ouragans et bien des fois, on a cru couler. Mais Dieu n'a jamais lâché nos mains. Et nous avons tenu le coup. Entre-temps, nous avons ouvert l'école Timothée. Alors là encore, l'amour de ma vie m'a fait une drôle de tour. Hein. Je vous dis tout ce soir. Donc, c'était un... bon, il était allé à Mâcon, à l'armée de l'Éternel. Il avait assisté à un atelier de Luc. Et en tant qu'enseignant, ça avait réveillé plein de choses en lui. Et il m'a bassiné avec ça. Mais moi, je me sentais menacée. Je dis, ouh, si jamais on ouvre une école chrétienne, là, ta vie, elle est fichue, ma vieille. Ta tranquillité. Et donc, entre-temps, il avait aussi invité Luc, qui a débarqué chez nous, 15 jours après. Et donc, il a fait son ravage, évidemment. Et 15 jours après, il a invité Pierre Cranga, qui, lui, a mis la cerise sur le gâteau, la chantilly et tout ce que vous voulez. Et le dimanche qui a suivi, il y avait jeûne et prière. On faisait, le premier dimanche du mois, on faisait jeûne et prière. Moi, j'étais rentrée avec les enfants pour les faire manger. Et quand je reviens l'après-midi, à la réunion de l'après-midi, on me dit « Félicitations !» J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce que j'ai gagné ?» Et puis finalement, je ne comprenais pas. On me dit « Mais si, pour l'école que vous allez ouvrir en septembre, que tu vas être la directrice !» Je savais bien que cette école, elle allait me compliquer la vie. Bon, voilà, donc... on a ouvert cette école et en tant que directrice, j'étais pas quelqu'un de très... Parce que les adultes me faisaient peur. Et puis alors, bon, on avait une équipe qui était super gentille, mais les querelles et les histoires, ça manquait pas. Donc, bon, j'ai fait mes armes là-dedans. Mais c'était pas facile. Et donc, j'ai commencé quand même... Alors, il m'a poussé, il m'a tiré. Il m'a rendu la vie dure hein, pour que je sorte de... et donc, Dieu l'a utilisé, mais il s'en est aussi mêlé de différentes façons. Et je commençais à émerger tout doucement. Alors, j'ai fait quelques extras. Et puis après, dès que j'avais fini mes extras, zou, dans ma grotte. Voilà, donc je faisais des efforts, mais je les faisais vraiment par moi-même. Enfin, souvent, je faisais pour faire plaisir à Alain. Parce que voilà, c'est ça hein, quand on aime. Et on est venu, je pense que c'était autour des années 2000, la formation avec les Fabiano. Je ne sais plus, Béné, tu y étais aussi. Enfin bon, voilà, c'était il y a un moment. Donc je suis venue à cette formation avec une collègue et amie. Donc Franck et Catherine Fabiano, c'était des pédiatres, c'est ça ? Psychologue, pédopsie, c'est ça ? Voilà. Et donc, ils ont fait un ouvrage qui est magnifique, d'ailleurs, sur les tranches d'âge des enfants, le fonctionnement et tout ça. Et chaque jour, ils nous apportaient une tranche d'âge, ils nous expliquaient ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, comment se comporter, ce qu'il fallait faire et tout ça. Et on est arrivé comme ça, sûrement vers le milieu de la semaine, à la tranche des 5-8 ans. Alors évidemment, cette formation, elle se passait début juillet, le moment où les enseignants sont complètement liquides. Et puis nous étions dans le réfectoire du collège, il faisait chaud. Donc le jour où, comme pratiquement le soir, quand elle avait fini ou il avait fini, ça dépendait parce qu'ils enseignaient chacun à leur tour, quand l'enseignement était terminé, ils prenaient un temps pour prier. Et moi j'aimais bien ce moment-là parce que je me glissais sur ma chaise et je commençais à somnoler. C'était bien, ça faisait du bien. Et donc le jour de la session des 5-8 ans, eh bien je me suis installée, mais bon, ça, il ne faut pas le dire. Hein. Quand on va à une formation, c'est pour travailler. Et donc, dans une douce torpeur, je suivais de loin ce qui se disait, quand tout à coup, j'ai reçu une décharge qui m'a réveillée complètement. Et la dame, c'était Catherine qui parlait ce jour-là, lisait ceci. Je vois une personne sous une table. Elle y est entrée il y a très longtemps, et même si elle en est ressortie physiquement, tout son être intérieur y est resté. J'ai dit, mais Seigneur, mais comment tu fais pour te rappeler des trucs que moi j'ai complètement occultés, mais c'est pas possible. Mais ça y est, j'étais réveillée. Et la dame continuait, le Seigneur te demande de sortir maintenant et d'affronter la lumière. Ce ne sera pas facile. Et tu seras vulnérable, mais c'est le temps pour toi d'entrer dans ta destinée. Ah, je vous dis pas, hein. La sieste, adieu sieste bienfaisante, hein. Je suis sortie de là, j'étais complètement... je dis, comment c'est possible ? Bon, je sais que Dieu est grand. Mais voilà, ce jour-là, il m'a quand même un peu contrariée. Donc, nous logions chez Luc et Manu, j'étais avec Béa, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cette. On était dans la chambre de Stella, et j'ai passé ma nuit à tourner, à retourner, à discuter avec moi-même. Et finalement, au matin, ben voilà, j'ai décidé que ben, j'allais essayer de sortir de sous la table. Et voilà, à partir de ce jour-là, bien, étape par étape, j'ai commencé à émerger doucement. Donc, Dieu a débroussaillé. Bon, Alain voulait que je m'investisse dans l'église, moi je ne voulais pas. Et vous savez, j'étais tellement discrète dans l'église qu'un jour il va faire une visite chez un couple. Et la dame lui dit, vous allez rester à manger avec nous. Et il dit, non, ma femme et mon fils m'attendent. Ah, il dit, parce que vous avez une femme. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu comment j'étais. Voilà, bon, bref. Donc tout un cheminement s'est mis en route et qui m'a fait grandir. Et bon, je suis encore en chemin, mais je veux vraiment être celle que Dieu veut que je sois. Et si, ben voilà, si ma collègue qui a fait le PowerPoint a choisi la bonne image, ben voilà, je veux vraiment correspondre à ce que Dieu veut que je sois. Oh, j'ai encore des séquelles, hein. Par exemple, trouver une place en bout de rangée et près d'une porte pour pouvoir me sauver en cas de danger, entre guillemets. Échapper à l'objectif des appareils photo. Ça aussi, c'est quelque chose où je suis devenue très douée. Laisser parler et prier les autres en souhaitant qu'ils prennent toute la place et qu'on ne me demande rien. Me comparer aux autres et penser que je suis, vous savez, N-U-L-L-E. Voilà, ça c'est des choses encore qui c'est un peu mon quotidien, hein, mais je me soigne, j'essaye. Voilà, donc maintenant vous savez tout presque. Et vraiment je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis, pour cette famille que vous êtes. Et vraiment on se sent bien avec vous et merci à Alain parce que voilà, il a été persévérant. Tu n'es pas encore au bout de tes peines, mais... Alors, tous les matins, il se demande, il me pose la question, mais qu'est-ce que je vais faire de toi aujourd'hui? Je lui dis, depuis 42 ans, tu n'as pas trouvé la réponse, c'est plus la peine de te la poser maintenant. Hein? Voilà. Je voudrais aussi dire merci à Luc et Manu qui ont accepté d'être nos pasteurs. Vous savez, il y a fait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu de pasteur. Hein, parce que quand il avait la charge de l'église, on n'avait pas de pasteur. Donc il fallait qu'on se débrouille comme on pouvait. Et moi, en particulier, je ne voulais pas peser sur lui. Donc ben voilà, j'étais invisible, muette. Et quand j'avais des problèmes, je n'en parlais pas. Et voilà, donc ici, on